Vous écoutez
RMC. RMC Sport Show.
Thibaut Giangrande.
Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue dans le RMC Sport Show, le rendez-vous sport du dimanche soir à la radio. Une heure pour revenir sur l'actu fort du week-end avec, comme toutes les semaines, notre membre de la Dream Team, Maryse Evangépé. Comment ça va, Maryse?
Mais ça va bien, très bien.
Une belle journée d'été sur tes bords de Marne aujourd'hui.
C'est pluvieux, c'est très giboulé du mois de mai.
Ah ouais, j'ai pas mis le nez dehors, tu vois, je pensais qu'il faisait beau, j'ai regardé la météo avant de partir. Non, d'accord. Bon, okay. Oussem Loussaïef, lui, profite toujours, sache-le, il est en RTT, peut-être. Des bords de son
il
balcon.
Il est tout le temps en danger, c'est
ouais,
pas possible.
C'est vrai. Ou alors il veut plus nous voir le dimanche. Il va falloir qu'on se pose des questions, Marie. Au programme ce soir, du rugby, le top 14 approche du dénouement et c'est très, très indécis. La course aux phases finales concerne au moins 7 clubs et 4 équipes sont en danger de relégation après cette 23e journée. Le demi de mêlée du Racing 92 qui a frappé très fort hier contre Clermont. Teddy Iribarren sera notre invité dans quelques minutes. Une de plus pour Lewis Hamilton. Il a été bousculé, il a été dépassé, mais au final, il a gagné le Grand Prix d'Espagne. Les Français sont dans les points. Débrief à suivre avec Jean-Luc Roy, Zverev, Berrettini. C'est l'affiche surprise de la finale du Masters 1000 de Madrid. Pas de Nadal, de Tsitsipas, ni même de Gilles Simon. Y aura-t-il du changement à Roland cette année? L'éclairage d'Eric Salio à 19h30. Comme toutes les semaines, le mood Evan GP. Maryse, coup de gueule ou coup de cœur cette semaine?
Je suis en colère.
Oh non.
Je suis en colère. Ben oui, je suis désolée.
Bon,
je passe un week-end férié en colère. C'est terrible ça quand même.
Rendez-vous vers 19h40. Et puis c'est parti pour le Giro, première des trois grandes courses à étapes de la saison. Les enseignements de ce premier week-end de course avec notre invité à 19h45, Cédric Vasseur, le manager général de l'équipe Cofidis.
RMC Sport Show.
Qui directement qualifié pour les demi-finales? Quel club dans le top 6? Qui devra jouer un barrage pour ne pas descendre en Pro D2 à 3 journées de la fin du top 14? Les interrogations sont encore nombreuses. C'est vrai que ça fait un paquet de questions, dis donc. Bonsoir Wilfried Templier.
Bonsoir.
Wilfried,
journaliste. C'est quoi cette Amel Ben 2009?
Oui. Voilà. Bon, on peut l'arrêter maintenant.
T'aimes pas la musique?
Salut Maryse.
Bonsoir. Salut.
Wilfried Templier, notre journaliste rugby, évidemment à RMC. Alors Wilfried, quel est ce monde où tu m'emmènes maintenant? C'est pas cette question. Non, qui sera dans le top 6 à la fin de la saison plutôt?
Dans quel monde on vous emmène? Cette fin de saison.
Un classement extrêmement serré à l'issue de cette 23e journée de top 14. Wilfried, bon, on peut dire pour Toulouse et La Rochelle, c'est presque fait. C'est en très bonne voie.
Presque.
Mais du Racing 3e à Lyon 9e, tout le monde a encore sa chance ou presque pour les barrages.
Ouais, c'est incroyable cette course aux phases finales. On rappelle les 6 premiers qui vont barrage d'abord de 3 contre 6 et de 4 contre 5 et ensuite en demi-finale que rejoindront les 2 premiers du classement directement et ensuite ils attendront les vainqueurs du barrage. Donc on rappelle que Toulouse, tu sais, c'est presque fait. Toulouse est premier avec alors soyez concentrés, attention hein, c'est les chiffres et les lettres, surtout les chiffres d'ailleurs. On rappelle que Toulouse est premier avec 72 points. La Rochelle est deuxième avec 67 points, mais un match en retard prévu mardi à Brive. Donc c'est vrai que si les Rochelais s'imposaient à Brive, ils pourraient rejoindre quasiment Toulouse et auraient une petite avance derrière, parce que derrière, on va dire que le Racing est à l'affût, derrière, troisième, le Racing a 64 points. Quatrième, Clermont, 63 points. Cinquième, Toulon, 62. Un match en moins pour Toulon. Sixième, Castres, 59 points. Vous suivez toujours?
Oui.
En fait, moi je veux bien les mathématiques, mais il faut, j'ai à peu près suivi si tu me dis combien on a de points sur un match gagné.
4 ou 5. Et 4 un point de zéro
oui,
ou un point de bonus défensif
oui,
sur. D'accord. Donc ça peut aller vite. Donc on était.
4 ou 5, ça peut. Toulouse serait quand même en tête, même si La Rochelle a un match de retard.
Oui,
il peut faire que égalité.
Si La Rochelle. Oui, mais c'est les deux premiers qui vont en demi-finale. Donc si
tu
La Rochelle.
Suivi, hein.
Si, c'est bien. Si La Rochelle gagne à Brive, il serait à 71. C'est pas fait. Attention, ami briviste, on le sait. 71 points et ça ferait 7 points d'avance pour La Rochelle et 8 pour Toulouse sur le 3e.
Et du coup, ce qui est impressionnant dans ce classement aussi pour. Être dans le top 6, comme tu le disais, Wilfried, c'est qu'entre le 3e, le Racing, et le 8e ou 9e, Lyon, il y a 7
points. Racing a 64 points voilà. Et Lyon a 56 points.
Voilà, donc 8 points.
Et dedans, il y a Bordeaux qui est 7e avec 58, voilà. Mais 2 matchs en moins. Toulon est 5e avec 62, mais avec un match en moins. Castres est revenu dans les 6 avec 59 points. Donc c'est très sérieux. En fait, le grand perdant du week-end, c'est Lyon. Parce que Lyon s'est incliné à Castres, mais a vu ses concurrents qui sont passés devant Toulon, Castres, Bordeaux et Français et le Stade Français gagner ce week-end. Donc Lyon se retrouve 9e avec 55 points, n'a rien perdu encore, mais a reculé au classement.
Alors le Racing 92, 3e, a justement frappé très fort dans cette course au top 6, aux phases finales du top 14. Après 4 défaites de suite, ils ont collé 45-19 à Clermont hier.
Teddy Thomas maintenant qui s'élève. Teddy Thomas dans les 22 mètres, il n'est pas plaqué, il va réussir à transmettre ce ballon à Kurt Lébile pour le premier essai. Voilà la réaction directe du Racing 92. Le deuxième essai du Racing. Oh, ça va très 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 vite avec cette ligne de trois quarts dont on parlait, dont on vous parlait. Teddy Thomas, une nouvelle fois spectaculaire. Kevin Le Guen, le talonneur à la conclusion de ce super mouvement, une nouvelle fois des Racing Men. Victoire 45-19 pour le Racing 92 de Laurent Travers. 6 essais marqués par les Franciliens, un essai marqué par Clermont. Le Racing 92 prend la troisième place du championnat à Clermont et revient à 3 points de La Rochelle.
45-19 et nous sommes en direct avec le capitaine du Racing 92 hier, le demi de mêlée, Teddy Iribaren est dans le RMC Sport Show. Bonsoir Teddy.
Bonsoir à tous.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, il y avait ces 4 défaites de suite. Hier, vous êtes fâché face au Clermontois.
Fâché, je sais pas, parce que dans le contenu, évidemment que c'est mieux que les précédents matchs, notamment sur le score fleuve, mais on a retrouvé notre état d'esprit, mais je suis pas très content dans le contenu parce qu'on prend encore 17 pénalités, je crois qu'on perd pas loin de 15 ballons, donc finalement on va retenir les 5 points, la victoire et évidemment les essais en première main.
Wilfried Templier. Est-ce qu'il y avait quand même une certaine forme, bonsoir Teddy, est-ce qu'il y avait une certaine forme de pression pour le Racing qui a un certain statut dans ce championnat, qui a été finaliste de Coupe d'Europe la saison dernière, enfin c'était à la rentrée mais la saison dernière, qui a un certain effectif aussi, et après 4 défaites de suite, c'est quand même très inhabituel chez vous, est-ce qu'il y avait une certaine forme de pression que face à Clermont qui est un concurrent direct là au on va dire pour l'instant au barrage à domicile?
Oui, alors c'est le Racing, c'est un grand club, je veux dire, il y a des grands noms, on est là, on est dans ce club pour gagner des titres, donc la pression, on l'a tout le temps. C'est pas à cause de ces 4 défaites qu'on l'avait. Évidemment qu'on l'avait encore plus, mais je veux dire, on est constamment sous pression parce qu'on sait qu'on est regardé, qu'on est attendu, qu'on est forcément sous les yeux de la critique. Donc c'est un peu dans nos habitudes, mais c'est vrai que perdre 4 matchs, ça faisait un moment que ça nous était pas arrivé. On est un petit peu sorti la tête de l'eau avec cette victoire, mais voilà, aux yeux du classement, on voit que rien n'est joué encore.
Comment vous expliquez cette mauvaise passe et ces 4 défaites de suite, cette mauvaise passe que vous avez traversée, Teddy Iribaren? Parce que l'anomalie, finalement, c'était plus ces 4 défaites de suite plutôt que la victoire et la large victoire hier contre Clermont.
Alors, l'expliquer, c'est que si j'avais compris, j'aurais essayé de trouver des solutions un petit peu avant, mais c'est voilà. Les saisons sont très longues, particulièrement celle-là. On est tous dans les mêmes conditions avec ce Covid. Mais voilà, les saisons sont très longues, on est forcément en dents de scie à certains moments. Et nous, voilà, on a une période creuse avec pas mal de blessés, cette défaite en quart de finale de Coupe d'Europe contre Bordeaux, qui nous a mis un petit coup de massue, une succession de petites choses qui ont eu de grandes conséquences, j'ai l'impression.
Marie Zévon GP, une question pour Teddy Iribaren.
C'est un championnat où il y a beaucoup de rebondissements, où il y a des périodes un peu compliquées. On va pas effectivement chercher si c'est le Covid qui a fatigué les uns et les autres ou pourquoi ça marche à un moment donné ou pas un autre. Mais comment vous voyez du coup la fin de saison? C'est une question difficile.
Question difficile, non. C'est ce qui nous attend. La saison, elle est très longue. Mais en revanche, quand les phases finales arrivent, il y a plus personne qui est blessé, ouais, bon, sauf évidemment. On repart à zéro. On est mentalement très prêt à en découdre parce que voilà, on sait qu'il reste 3 matchs de championnat ou 4, 3 matchs de championnat et derrière c'est 3 matchs pour lever le bouclier pour la consécration. Donc je veux dire, serrer les dents pendant 3 semaines, ça va être de loin le plus facile. Donc comment je vois la fin de saison? J'espère qu'on sera au bout et qu'on lèvera ce bouclier.
Teddy Iribaren, le capitaine du Racing 92 hier contre Clermont, est en direct dans le RMC Sport Show à 19h09, toujours avec Wilfried Templier, notre journaliste rugby, avec Marie-Zévon GP, notre membre de la Dream Team. Wilfried Templier, une question.
Ça va mieux peut-être aussi, on a parlé de ces 4 matchs, ça va mieux quand on a Leroux, quand on a Russell, quand on a Imhoff, quand on a Vakatawa, Teddy aussi, parce que vous avez eu des pépins physiques. Pas forcément, ça a été bien pendant le tournoi, il y avait les doublons, mais c'était peut-être une conséquence après du tournoi, les internationaux réquisitionnés et les blessures que vous avez eu derrière.
Évidemment qu'on a des joueurs importants, mais je veux dire, on a deux, voire trois équipes qui sont compétitives. Quand au Racing, on ne va pas se cacher derrière deux blessures. Je veux dire, évidemment que Ficou Katawa, ça fait rêver beaucoup de monde. Mais il ne faut pas oublier qu'on pouvait mettre une paire de centres, les deux étaient blessés, mais ça pouvait être Henri Chavanti, Olivier Clemenzac. Donc,
ça
fait une belle équipe, ouais, c'est clair.
Évidemment que j'en oublie, mais je veux dire, ça fait deux paires de centres internationales, quoi. Donc, est-ce qu'on peut se cacher derrière les blessures? Derrière, évidemment, qu'on a des joueurs hyper importants, comme Camichin, qui n'est pas là, mais qui est très bien suppléé aujourd'hui. Bernard Leroux est hyper important aussi dans l'agressivité. Mais aujourd'hui, on a une mauvaise passe, mais je ne crois pas que le Racing peut se permettre de dire que c'est à cause de quelques joueurs qui n'étaient pas là. Alors, on arrive en fin de saison. Là, aujourd'hui, il nous manquait quand même, malgré tout, pas mal de joueurs. Et on a quand même réagi et su faire un gros match. Donc, je pense que c'est plus sur un aspect mental, un aspect... je ne sais pas, on n'est pas arrivé à prendre nos responsabilités, à prendre la mesure de cette fin de saison. On s'est un petit peu relâché parce qu'on a eu des mauvais résultats. Et ça a été un engrenage, un petit peu quelque chose de cyclique et de redondant. On sait que voilà, on s'est mis la tête au fond du seau un petit peu tout seul.
T'es dit, on parlait
c'est
de
bien, c'est, ce qui, ouais. C'est ce qui s'appelle ne pas se cacher derrière son petit doigt, au moins. Moi, j'aime bien ce genre de discours.
T'es dit, on parlait de vos cadres, de vos grands noms aussi. Quand vous êtes demi-mêlée, que vous faites la passe et qu'après, il y a Russell, il y a Ficou, il y a Vakatawa, il y a Imhoff, il y a Teddy Thomas, il y a Bill, et j'en passe, Tofi Finois. Vous êtes demi-mêlée, vous faites la passe et vous regardez.
Mais ce week-end, c'était un peu totalement ça. C'était soit on marquait, soit on perdait le ballon. Donc, derrière, c'est vrai que c'était pas loin d'être... alors, je me compte pas dedans, évidemment, mais dans la ligne de trois quarts, c'était les Galactiques, quoi. Ça me fait penser un petit peu au Real de Madrid à l'époque, ou des choses comme ça, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant de les voir évoluer, et quand ils sont en pleine possession de leurs moyens, ils sont capables de faire des choses incroyables.
C'est qui Zidane dans ces Galactiques?
Pardon?
C'est qui Zidane dans ces Galactiques? C'est le demi de mêlée quand même.
Bon, on va le faire au numéro, hein, on va dire que c'est le 10, on va dire que c'est Finn
Russell. C'est Finn
Russell. Ouais.
Ok, bien joué, bien sorti. Teddy Ribarren est l'invité du RMC Sport Show. Ce soir encore deux questions avec vous, Teddy. Capitaine, hier justement, du Racing 92 contre Clermont. À votre poste aussi, il y a de la concurrence dans cette grande équipe qu'est le Racing. Il y a Maxime Machenot, il y a vous. Hier, vous êtes titulaire, vous êtes capitaine. Est-ce qu'il y a... Un signe peut-être de ce qu'il faut attendre pour le Racing de cette fin de saison? Est-ce que vous êtes le demi de mêlée titulaire?
C'est pas facile à dire pour lui.
si je réponds oui, bien sûr, on peut s'arrêter là ou pas? Pas du tout.
Teddy, magie de la radio, mais, là vous venez de le dire, hein, moi, on peut couper ça au montage, c'est bon.
Non, je le pense pas, évidemment. Et vous en avez oublié parce que c'était Max qui n'était pas là. Parce qu'il a eu un petit problème avec le Covid et sa femme. Sinon, il aurait été sur le terrain aussi. Je ne sais pas qui aurait joué. C'était Antoine Gibert qui était remplaçant. Et vous oubliez un qui est blessé, c'est Nolan Le Garec qui est en pleine émergence aussi. Donc, c'est le Racing. Je veux dire, il n'y a pas de poste où c'est que quelqu'un est assis sur un fauteuil. La fin de saison, évidemment que j'aimerais la faire. Évidemment que j'aimerais être titulaire. Et pourquoi pas capitaine. Ça, c'est ce que j'ai envie, en tout cas. Je vais tout faire pour l'être, mais voilà, on sait les aléas de la saison, les contre-performances, les bonnes performances des uns et des autres. En tout cas, la seule chose que je veux aujourd'hui, c'est lever un bouclier, que ce soit en tant que titulaire, capitaine sur le terrain, en tant que remplaçant ou encore la troisième étape, c'est hors groupe, mais en tout cas, j'ai envie d'avoir un titre, donc tel qu'il soit. Évidemment, je vais tout faire pour être sur la pelouse, mais si j'y suis pas, je pousserai derrière mes copains.
Vous avez dit deux ou trois fois en peu de temps, lever ce bouclier, c'est vraiment dans votre tête, on imagine. Parfois, on va dire, le titre de champion de France a une certaine logique. Pas avec Castres en 2018 qui est sorti sixième, mais quand on voit le titre des Toulousains en 2019, c'était une certaine logique et c'est une certaine traduction de la saison. Malgré tout, vous sentez, vous l'avez dit, hein, vous avez deux, trois équipes peut-être dans l'effectif, vous sentez avec ce que vous avez loupé en Coupe d'Europe, avec votre expérience, que vous êtes un fort candidat à ce bouclier de bonus?
Mais malheureusement, oui. Malheureusement, parce qu'on va être attendu. Parce qu'on va être attendu. Mais parce que je ne sais pas si ça se vérifie à part Toulouse, je crois qu'il y a été, évidemment, la dernière saison, c'est qu'ils ont survolé un petit peu le championnat. Mais je crois que sur les saisons précédentes, j'ai vu pas mal de fois 4.
Clairement en 2017, avait fait une grosse saison. Stade France en 2015 sortait, oui, des barrages, c'est vrai. Vous en 2016.
Le Racing en 2016 avec des matchs un peu qui gagnaient à la dernière seconde.
Non, mais il y a eu une saison assez linéaire pour les, par exemple pour les Rochelais et les Toulousains jusqu'ici. C'est ce que je voulais vous dire aussi.
Ouais, c'est vrai. Après, aujourd'hui, voilà, on a perdu en quart de finale en Coupe d'Europe contre Bordeaux. Mais c'est pas pour autant que perdre un match fait de nous un des grands noms d'Europe et du coup du championnat français. Je pense que tous les clubs qui vont être dans le top 6, après tous les cartes sont remises à zéro, même si Toulouse et La Rochelle, ils sont un ton au-dessus. Je veux dire, ça reste du rugby et sur un match, tout est possible. Donc, en tout cas, nous, on croit en nos chances et on va essayer de travailler pour évidemment avoir un titre. Parce que moi, c'est ma quatrième année maintenant au Racing et je suis venu ici pour ça. Quoi.
Et pour soulever un bouclier, comme vous avez dit, on a bien compris.
Merci beaucoup.
Oui, une grande équipe.
Teddy Ribéry, en direct sur RMC, dans le RMC Sport Show. Bonne soirée à vous, Teddy.
Merci à vous, bonne soirée.
Merci.
À bientôt.
Bonne soirée, à bientôt. Merci. Bonne suite de saison, Teddy Ribéry, demi de mêlée du Racing 92, qui a envie d'aller chercher un titre quand même.
Ouais, vous avez entendu ça?
19h16.
Je crois qu'en même temps, si tu n'as pas envie d'aller chercher le titre, tu t'arrêtes.
Bien sûr, mais dans ce sport. On connaît la langue de bois de certains. Lui ne l'a pas manié. Donc c'est pas
jamais.
Oui, c'est vrai.
19h16, Marie Zévan GP est là, évidemment, comme tous les dimanches, jusqu'à 20h dans le RMC Sport Show. Wilfried Templier également pour revenir sur cette 23e journée de top 14. Cette lutte pour les phases finales, pour le top 6, avec notamment le retour aussi Castres. Wilfried, incroyable, cette remontada des Castres qui sont 6e, bien partis pour y aller. Il y a aussi l'autre grosse Scott, le Stade français qui n'est pas encore dans le top 6, mais aux portes du top 6. Suspense donc pour toute cette sixième place. Suspense aussi pour la relégation. Alors pas pour la dernière place, qui est la propriété définitive et exclusive
d'Agen. Malheureux Agen,
qui n'a toujours pas gagné cette saison.
Ouais.
Le suspense, c'est pour la 13e place, synonyme de barrage contre le finaliste de Pro B. Et là, Wilfried Templier, il y a encore beaucoup de monde concerné. 4 équipes pour une place.
Il faut reprendre la calculatrice, le carnet, Maryse et le stylo. Mais c'est plus court, ils sont que 4. Ouais. Voilà.
Non, mais moi j'ai signé pour une émission de radio, pas pour une note.
Il y a 5 points d'écart entre le 10e Montpellier et le 13e Bayonne. Montpellier a 45 points et 2 matchs en moins, donc on peut dire que les Montpelliérains ont certainement fait le plus dur. 5 victoires consécutives, les Montpelliérains en plus ont une dynamique incroyable. Brive est à 45 points et 1 match en moins aussi, ça devrait aller pour Brive. Et derrière, franchement, ça devrait se jouer entre Pau, qui est 12e avec 41 points, et Bayonne, qui est 13e avec 40 points. Un seul point d'écart pour savoir qui jouera le barrage sur un match face au perdant de la finale de Pro D2. Là, c'est on joue son avenir top 14 ou Pro D2 sur un match entre Pau et Bayonne. Mais c'est vrai que la dynamique, Pau a fait forte impression, enfin a gagné largement à Agen quand Bayonne s'est incliné face à Bordeaux à domicile.
Alors pour connaître l'épilogue de cette saison de rugby, il reste 3 matchs, mais on va sortir la calculette, parce que pour certains clubs, ce sera 4.
Oui, en plus,
avec les matchs en retard. Et justement, au-delà des résultats de ce week-end, l'événement, c'est ces différents coups de gueule qu'on a entendus contre le calendrier, parce qu'il y a ces matchs en retard qui seront joués la semaine prochaine, en semaine, justement. Et ça ne plaît pas du tout à certains. On a entendu Jules Plisson ce week-end qui s'en est plaint. Ce matin, Philippe Saint-André, l'entraîneur de Montpellier, a poussé un coup de gueule dans les grandes gueules du sport sur RMC.
Moi, je suis très en colère parce que l'équité sportive n'est pas là. On peut pas jouer tous les 3-4 jours. On se rend pas compte, mais voilà, on est dans un sport de combat collectif. Les mecs ont des têtes. Les gens qui prennent ces décisions, ou ils ont jamais joué au rugby, ou ils sont jamais rentrés dans un vestiaire après un match.
Marise, tu le connais un petit peu, Philippe Saint-André, pas content.
Mais il n'est pas content, et j'entends bien, et c'est tout à fait normal, il a raison, on ne peut pas jouer tous les 3 jours.
Il n'y a pas de solution.
Mais une fois que tu as dit ça, tu n'as pas de solution. Ouais. On ne peut pas avoir favorisé le championnat de top 14 dans la période où tout le monde était confiné et où eux pouvaient continuer à jouer. Avoir eu des cas de Covid, personne n'est responsable. Il y a eu énormément d'équipes qui ont été affectées par ça et des matchs qui ont été suspendus à cause de ça. C'est pas quand même pas la faute des dirigeants si ces matchs doivent être.
Non mais Marie, il y avait l'histoire de la péréquation possible en fait, de justement de ne pas les jouer, parce que normalement la règle c'est que dans un mois une équipe ne peut pas jouer 2 matchs en semaine.
Et donc là, ça voudrait dire qu'il faudrait faire un championnat avec moins de journées pour tout le monde.
Sur un match, par exemple le dernier match en retard de Montpellier, on le joue pas, on le joue sur une moyenne des points de Montpellier si c'est à domicile et des points de son adversaire à l'extérieur, et on fait le résultat comme ça.
Ça serait pas plus équitable?
Mais non, mais c'est dangereux pour la santé parce que là, Montpellier a 7 matchs en 28 jours. Donc, ça fait une moyenne d'un match, un match tous les 4 jours, dont 2 en semaine, dont 1 4 jours après leur finale de Coupe d'Europe à Bordeaux. Et c'est vrai que s'il arrive quelque chose à un jeune joueur.
Non, mais on a bien compris que t'aimais les maths, toi. Tu préfères effectivement faire des calculs à l'emporte-pièce. Après, si on peut mettre la NASA dessus, moi, je suis d'accord avec toi que de toute façon.
Non, mais c'est, si un ennui arrive après, on aura. Enfin, voilà, ce sera.
Eh bien, c'est vrai qu'il n'y a pas de véritable équité, encore une fois, dans cette crise. Tu peux pas avoir un championnat qui soit complètement égalitaire. Mais je pense aussi que Montpellier a un banc suffisant pour faire tourner, quitte à effectivement prendre un risque de perdre un match. Mais ils doivent pouvoir remplacer, peut-être pour qu'il n'y ait pas toujours les mêmes qui soient sur le terrain.
Heureusement
mais j'ai
eux,
du mal à voir la solution.
Heureusement pour eux, ils ont gagné beaucoup de matchs, ils se sont donné de l'air, ils sont 10e avec 40.
Et voilà, c'est peut-être pas le club le plus en danger par rapport à ça. Et ils doivent pouvoir faire tourner.
Mais c'est vrai qu'on aura du coup du rugby mardi et mercredi, c'est ça hein, tout mardi. Voilà, ouais. Tout mardi, du rugby en milieu de semaine. On n'en a pas l'habitude. Et je précise que le 13e du top 14 affrontera bien le finaliste de Pro D2. Parce qu'apparemment, j'ai Yoann qui me dit sur le direct studio, j'aurais peut-être dit Pro B. Alors imaginez un match de rugby entre le
13e.
Voilà, ça peut être rigolo, mais c'est pas le principe. Ce sera bien Pro D2. Merci Wilfried Templier.
Merci à vous.
À très vite. Bonne soirée. 19h21. Maris, tu restes là, évidemment. Le RMC Sport Show continue en direct jusqu'à 20h. À suivre la Formule 1. Après quelques tout petits doutes en début de saison, Hamilton est-il de nouveau imbattable? Jean-Luc Roy nous rejoint. Et puis le tennis, lui, n'est plus imbattable. Nadal a encore perdu cette semaine sur terre battue. Est-ce l'année du changement pour Roland Garros qui arrive? On sera avec Eric Salio. À tout de suite sur RMC.
RMC Sport Show.
Thibaut Jean-Grande.
Le RMC Sport Show, le rendez-vous sport du dimanche soir à la radio avec Maryse et Evon GP jusqu'à 20h. À suivre justement le mood Evon GP. Et à suivre également notre invité Cédric Vasseur pour débriefer ce premier week-end du Tour d'Italie. Nous sommes dimanche le 9 mai. Parlons Formule 1, même bousculé, même dépassé. Il finit toujours par gagner. Lewis Hamilton a remporté cet après-midi le Grand Prix d'Espagne.
Apparemment, ça passe pour Verstappen, oui! Eh bien voilà, on l'attendait ce suspense. Verstappen est parvenu à passer devant les deux Mercedes. Derrière, attention à la Ferrari de Charles Leclerc. Charles Leclerc qui s'empare également de la troisième position. Il est passé, Lewis Hamilton, voilà! Eh bien dans les tout derniers mètres dans la zone de freinage, Lewis Hamilton par l'extérieur est parvenu à passer. La victoire de Lewis Hamilton! Magnifique victoire de Lewis Hamilton! 98e victoire de sa carrière de pilote de Formule 1. Je le disais, la troisième de la saison. Il conforte son avance au championnat.
Le commentaire de Jean-Luc Roy sur RMC Dream Team Sport Auto. Il est là avec nous ce soir en direct. Bonsoir Jean-Luc.
Eh ben oui, salut Thibaut, salut à la belle Maryse.
Salut Jean-Luc.
Alors Jean-Luc, Hamilton est très fort. Ok, j'enfonce une porte ouverte. Mais quand il est un petit peu bousculé, comme aujourd'hui à Barcelone, il peut en plus compter sur son équipe, qui est aussi très forte. Victoire tactique aujourd'hui, Jean-Luc, de Mercedes ?
Indubitablement, oui, on s'attendait effectivement à ce que la majorité des pilotes ne s'arrêtent qu'une fois. Et puis, compte tenu du caractère assez abrasif de la piste et surtout de l'évolution, tu sais, on a compris chez Mercedes qu'à la régulière, pendant les 24 premiers tours, eh bien, il était impossible à Hamilton de dépasser sur la piste, même si je pense que maintenant la Mercedes est redevenue légèrement plus performante que la Red Bull. Mais à la régulière, il n'y parvenait pas parce que Verstappen avait le talent pour maintenir Hamilton juste à la porte du fameux DRS, tu sais, environ une seconde de retard. Donc, c'était bien joué. Puis, à un moment, on a donc fini par arrêter Verstappen, qui, selon Christian Horner, le menteur, se serait arrêté tout seul un peu plus tôt au 24e tour. Il a chaussé des pneumatiques médiums et 4 tours plus tard, on a arrêté Lewis Hamilton. Là, on s'est dit, bon, a priori, ça devrait être joué puisque Verstappen est resté devant. Eh bien non, puisqu'au 42e tour, et c'est ce que tu soulignes, eh bien, chez Mercedes, on a bien joué le coup. On a arrêté Hamilton pour chausser un deuxième train de pneumatiques médiums, cette fois pour aller au bout, puisqu'il restait 24 tours. Et on va dire que Red Bull avait 2-3 tours maximum pour réagir et faire la même chose et ne pas se faire battre à cette stratégie. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont pensé que Verstappen allait pouvoir rester devant à la régulière. Eh bien non, puisque à 6 tours de l'arrivée, au 60e exactement, Hamilton a pris la tête devant Verstappen.
Ouais, quand t'es le meilleur pilote dans la meilleure voiture et qu'en plus ton équipe est au top tactiquement, Maryse, ouais, on souhaite bon courage aux autres, hein, évidemment.
Ouais, on a une domination d'un type qui va rentrer, enfin qui est déjà rentré en l'histoire, mais qui est exceptionnel. Noël. Je pense que je crois pas qu'on puisse se lasser de ça. C'est le pilote actuellement qui est le plus à l'aise, le plus. Puis en plus, on le sent confiant. Quoi. Quand t'es dans une vague de confiance, il peut pas t'arriver grand chose.
Alors, est-ce que Verstappen lui peut-être peut s'en lasser, Jean-Luc? Est-ce qu'il est, condamné à être un éternel deuxième? Alors, après 4 Grands Prix cette saison, il n'y a que entre guillemets 14 points d'avance pour Hamilton au championnat du monde, au classement général. Donc, bon, c'est pas terminé, mais on a l'impression que c'est en train de prendre une tournure qui pourrait ressembler à ces dernières années quand même.
Alors, si tu me permets, d'abord, évidemment, il faut maintenir le suspense, mais c'est pas arbitraire et c'est pas gratuit. On a bien vu que si Mercedes a progressé, ben, je prends toujours la référence Bottas, hein, qui a a priori la même voiture, évidemment, dans la même équipe, que je sache, et Bottas n'est pas capable de devancer Verstappen.
Termine 3e.
Ça veut donc dire... Ouais. Oui, et ça veut donc dire que, oui, enfin, il a toujours un petit problème ici ou là, mais bon, non, la chance, elle va toujours au champion et il n'y a pas de problème. Ça veut dire que, oui, Hamilton dans la Mercedes est aujourd'hui, en tout cas, était légèrement supérieur, en plus avec une très bonne stratégie. Maintenant, le prochain Grand Prix, vous le savez, c'est Monaco, dans moins de 2 semaines. Là, tout peut changer parce que Monaco est totalement atypique. Alors, on a vu Verstappen capable de dépasser Hamilton dans la plus longue ligne de toute la saison de Formule 1. Donc, avec un freinage d'enfer, il est parvenu à rester devant. Et c'est ce qui nous a valu ce suspense magnifique pendant la première partie de la course. Et même, j'allais dire, pendant la deuxième partie. C'est la troisième qui a été à l'avantage d'Hamilton. Non, ça peut se reproduire immanquablement. Et puis on va travailler chez Red Bull, à l'évidence. Hein. Là aussi, on a d'excellents stratèges, on l'a prouvé dans le passé. On a une excellente monoplace également, avec un pilote d'exception. Non, c'est pas du tout cuit. Et puis, tu sais, Lewis, il est comme tout le monde. Hein, il a aussi au moins 1 ou 2 jours sans dans la saison. Pas plus, mais 1 ou 2.
Oui, c'est vrai.
Mais ça suffit pas à perdre le championnat, même s'il perdait Monaco. Parce que c'est vrai que Monaco, c'est une épreuve complètement atypique, où on peut quasiment pas doubler, mais ça suffirait pas en termes de points pour le faire passer derrière.
Ben non, 14 points pour le moment, effectivement, il faudrait une catastrophe. Maintenant, je te dis, à Monaco, on a vu les meilleurs se prendre les pieds dans le tapis. Hein. La liste est tellement longue que ça peut arriver, même à Lewis, même tout seul devant. Tu sais comment ça se passe. Tout seul, je n'y crois pas. Oui. À supposer qu'il signe effectivement la pole, mais là, on peut faire confiance à Verstappen pour tout sortir. Verstappen, il peut la signer. Il y avait 36 millièmes d'écart. Hein. 36 millièmes, c'est absolument rien du tout à Barcelone. Donc, à Monaco, on peut très bien imaginer un Verstappen devant et qu'il parte devant.
Non, mais j'ai bien senti comment tu voulais faire monter la sauce pour pas nous dire en fait que Hamilton va tout cramer, tout remporter, qu'il est champion. Tu dis attention, il y a une épreuve qu'il peut perdre à Monaco, peut-être qu'il gagnera pas. C'est ça que t'es en train de nous faire en fait.
Bah, bien sûr, c'est ça que je suis en train de vous faire, mais c'est ça qui est vrai aussi. Mais c'est ça qui est vrai. Écoute, il se produit toujours des choses assez bizarres à Monaco, on le sait bien. Hein. Je te dis, la liste elle est tellement longue que là tout n'est pas écrit d'avance, loin s'en faut. Et puis encore une fois, ils sont très proches l'un de l'autre. Franchement, même si je pense que là, Mercedes, avec Hamilton, évidemment, a repris un léger avantage en performance. Ça n'est pas un avantage décisif, déterminant, et pas sur tous les circuits. Parce que les circuits, effectivement, plus lents, ceux qui demandent du grip mécanique, comme on dit, c'est-à-dire moins d'aéro, apparemment, la Red Bull serait encore légèrement supérieure. Bon, donc, on va retrouver cette situation à certaines occasions. Non, c'est pas joué. Pas avec 14 points après 4 courses, ce serait vraiment trop tôt. Tu te rends compte, il reste 19 Grands Prix. Oui. C'est énorme.
C'est l'avantage avec la Formule 1, c'est qu'on a l'impression qu'année après année, dans 2-3 ans, on fera 50 Grands Prix par saison. 19h33, on parle Formule 1 dans le RMC Sport Show avec Jean-Luc Roy, notre spécialiste sport méca, avec Maryse Evangépé, notre membre de la Dream Team. Intéressons-nous aux Français, Jean-Luc. On était un peu impatients de voir Esteban Ocon. Il partait 5e sur la grille, sur son Alpine. Il termine finalement 9e, devant Gasly d'ailleurs, qui termine 10e. Les Alpines, justement, c'est encore un peu juste sur une course entière, sur la durée.
Et oui, là, je crois qu'il a tout mis ensemble, hein, Esteban, pour signer cette magnifique position sur la grille. On a bien vu d'ailleurs, parce qu'il a quand même une référence, c'est pas n'importe qui, hein, c'est Fernando Alonso, double champion du monde, faut-il le rappeler. Donc on a bien vu qu'il était parvenu vraiment à faire un boulot absolument remarquable. Et puis en course, on avait choisi une stratégie, on y restait à un arrêt, un seul arrêt au stand. Alors je regardais, là, Ocon, il s'est arrêté au 22e tour. Et ça veut dire, le calcul est vite fait, il avait 40 34 tours à faire avec son train de pneumatique médium. Et il a terminé un peu à l'agonie hein, sur les pneus. D'ailleurs, d'un souffle, il a failli perdre cette 9e position au bénéfice de l'autre Français dont je sais que tu vas me parler. Les deux terminent à moins de 2 dixièmes d'écart. Donc on a marqué un progrès à Portimao, concrétisé surtout par Esteban Ocon, il faut bien le dire, qui semble avoir pris la mesure de Fernando Alonso, et c'est plutôt à son avantage. Il fait une belle course avec les moyens qu'il avait. Pour le moment, Alpine est clairement pas du niveau pour se battre pour la 3e place, pas du niveau des Ferrari, pas du niveau des McLaren, ça c'est sûr.
Et Jean-Luc, tu l'as dit tout à l'heure, on se retrouve pour parler Formule 1 dans 2 semaines pour le Grand Prix de Monaco, mais d'ici là, Jean-Luc, rendez-vous le week-end prochain, événement moto avec le Grand Prix de France en moto qu'on vivra d'ailleurs en longueur sur RMC. Passe une bonne semaine Jean-Luc, on se retrouve le week-end prochain pour la moto.
Entre un Grand Prix de F1 et un Grand Prix moto, moi je vais passer une bonne semaine. Bonne émission.
Salut
à vous.
Jean-Luc, merci beaucoup. 19h35, le RMC Sport Show continue en direct jusqu'à 20h avec Marie Zévan GP. Alexander Zverev contre Matteo Berrettini. Ah oui, c'est l'affiche surprise de cette finale du Masters 1000 de Madrid sur terre battue. Nadal a perdu cette semaine de manière précoce, Tsitsipas aussi. Et si le changement c'était pour maintenant sur terre battue, Roland Garros commence dans 3 semaines et pour une fois, il ne semble pas gagner d'avance pour Nadal. Bonsoir Eric Salio.
Bonsoir à tous.
La voix du tennis sur RMC. Déjà cette finale de Madrid, on est en plein dedans Eric.
Oui, parce qu'ils ont commencé à 18h30, donc 6 jeux à 5 pour Sacha Zverev, l'Allemand, le bourreau de Rafa Nadal. Il n'y a pas de break, c'est Matteo Berrettini qui est un beau gosse, faut le dire.
Ah oui?
Ah oui, très beau gosse.
Qu'est-ce qu'il y a à l'envers?
Mais il est fiancé, hein. Il est fiancé à une joueuse.
Mais il m'intéresse pas.
Ah bon? Non, mais c'est ça pour Marie.
J'ai passé l'âge aussi.
D'un point de vue sportif, Eric, est-ce qu'on peut dire que le tennis masculin n'a pas de leader sur terre battue à 3 semaines de Roland Garros?
Alors, Madrid, c'est particulier. C'est un tournoi très particulier parce qu'il se dispute en altitude. Et c'est pas un hasard si Nadal ne l'a gagné que 4 fois. Il aime pas ce tournoi. Ah oui. Il aime pas le tournoi. Il n'arrive pas à contrôler les balles. Et ça s'est vu contre Zverev. On l'a pas reconnu maintenant. C'est le deuxième accident après Monte Carlo contre Rublev. Donc effectivement, ça commence à faire beaucoup. Enfin, si je jette un œil sur les paris sur Roland Garros, les bookmakers semblent pas inquiets puisque pour eux, Rafa Nadal est largement favori. 1,90 et Djokovic est très loin derrière. Maintenant, le tournoi de Rome, qui a déjà débuté, va être une sorte de juge de paix parce que là, les cadors vont s'affronter. Djokovic fait son retour.
Ouais, il n'était pas là à Madrid.
Non, il avait fait l'impasse. Il s'est ressourcé chez lui à Belgrade. Il est allé aussi en Bosnie. Donc, il a préféré la fraîcheur d'esprit, on va dire. Donc là, ça va être une grosse explication au Foro Italico. Avec du public à partir de jeudi seulement, c'est-à-dire que les premiers tours vont se dérouler à huis clos. Et en général, si vous jouez bien à Rome, vous serez bon à Roland.
Ouais, donc du public à partir des huitièmes. Benoît Paire jouera a priori encore sans public la semaine prochaine.
Oui, je joue demain.
Ouais. Pour Nadal, si on s'intéresse à lui, évidemment, le roi de Roland-Garros, tous les ans, depuis 15-16 ans maintenant, c'était la voie royale, à chaque fois c'était presque plié d'avance là.
Non, il y a eu quand même quelques années où on se posait des questions.
Hein. Ouais, autant que cette année, Marie, tu dis ouais.
Non, évidemment, ouais. Puis plus ça va aller, plus les années vont passer, plus ça va être dur, forcément.
Oui. Non, parce que c'est vrai que là, cette année, il a été battu en quart de finale par Zverev là, à Madrid, en 2-7, battu à Monte Carlo en quart de finale par Rublev. On avait suivi ensemble sa victoire à Barcelone contre Tsitsipas arraché en 3-7 après avoir sauvé des balles de match.
Oui, il sent très bien joué.
Très bien joué, mais est-ce que c'est grave pour Nadal? Est-ce que Nadal joue un si mauvais tennis que ça sur terre battue?
Il n'est pas serein. Il a admis qu'il avait fait un pas en arrière par rapport à ce qui s'était passé à Barcelone. Il n'est pas serein et je pense que le tirage au sort de Rome a dû l'inquiéter un peu plus parce qu'il y a une forte chance, enfin, je dis ça et j'espère que je me trompe, mais il y a une forte chance qu'il joue. Et Yannick Sinner, l'Italien.
Ah, le pépite,
bon, attention,
la pépite.
Hein, Sinner va jouer Hugo Humbert. C'est pour ça que je suis prudent, parce qu'évidemment, je souhaite que Hugo Humbert passe Sinner, mais bon, il faut reconnaître que le Lorrain ne part pas favori face à Sinner. Et si jamais, mercredi, ça se passe mal pour Rafa, là, je pense qu'on pourra déclencher la balise Argos.
carrément. Maryse, un Roland Garros qui arrive avec un joueur qui n'écrase pas tout sur son passage, ce serait presque excitant, un petit peu quand même, franchement.
Mais moi, Encore une fois, hein, j'ai pas de souci avec les archi favoris. Bien sûr que quand Nadal est là, on se dit toujours que c'est son terrain, mais plus les années passent, c'est plus il fatigue, donc tu peux aller chercher. L'année dernière, on avait eu justement de jolies surprises avec les Français, les jeunes Français là. Et il y a d'autres façons de se faire plaisir en racontant des histoires, en voyant des jeunes qui arrivent à percer. On va pas essayer de se faire croire qu'aujourd'hui on a sous la manche quelqu'un, en tout cas en France, qui peut contrarier Nadal. Mais par contre, au niveau des tout meilleurs, c'est-à-dire panneaux français, depuis quelque temps, oui, on voit qu'il y a des gens qui passent devant. Donc ça reste excitant, bien sûr. Bien sûr. Puis c'est un Roland Garros presque en retour, en condition de celui qu'on avait connu il y a deux ans. On n'est plus dans le Roland Garros de septembre 2020 avec zéro spectateur ou autre. Donc ça reste excitant, ça fait plaisir quand même.
Et d'ailleurs, là, il y a un peu de public à Rome, à Madrid.
Oui, ils ont droit à 4500.
Ouais, c'est vrai que c'est pas mal.
Ça fait un peu vite.
Donc, on retrouve quand même un plaisir du tennis qui faisait défaut depuis quelques temps, quoi.
Ouais. On parle tennis avec Marie Zévan GP, avec Eric Salio, avec vous sur le hashtag RMC Live, l'appli RMC, le Direct Studio. Cette finale du Masters 1000 de Madrid. On parlait de Benoît Paire, tu as parlé d'Hugo Humbert également. Marie, se parlait de nos Français qui ne sont pas là pour embêter Nadal, justement. Eric, ils sont où les Français? Parce que sur ce Masters 1000 de Madrid
ouais, Benoît Paire,
il a gagné un match, on l'a vu, il l'a fêté, c'est vrai qu'une victoire comme s'il avait gagné Roland Garros, justement. Ensuite, il a pris une fessée contre Tsitsipas. Ils sont où nos Français, Eric?
Il y a Gaël Monfils qui va effectuer son grand retour à la compétition. On l'a plus vu depuis l'Open d'Australie.
Et ses pleurs, c'est ça, après l'élimination?
Ouais, absolument. C'est là.
Ouais. Donc là, il avait besoin de couper.
Alors,
de toute façon.
Il a besoin de couper, mais surtout, il a été handicapé par une blessure au mollet à Monte Carlo, puisqu'il était dans le tableau Monte Carlo, et puis deux jours avant de jouer, il y a eu cette lésion, donc ça a retardé son entrée. Donc on a hâte de voir où est-ce qu'il en est, même si malheureusement, il va jouer à huis clos son premier tour mardi contre un Italien. Donc il y a une grande curiosité. Et puis, que Marisella, on peut aussi parler des filles, puisqu'il y aura trois filles dans le tableau.
Ah, c'est juste parce que je suis là,
non,
tu parles des filles.
Je veux t'entendre, sur Caroline Garcia, qui a coupé les ponts avec son papa.
Et alors écoute, c'est quand même c'est tout frais. Donc est-ce que ça va avoir une incidence maintenant? C'est pas sûr. C'est possible que ça la libère mentalement. Ça intervient un peu tard dans sa carrière, mais peut-être qu'elle est à un âge de maturité, parce que je crois qu'elle a 27 ans, ça 26, ça, ouais. 27. Elle est à une maturité où elle a probablement très très bien réfléchi son geste. C'est pas évident, hein, parce que toutes ces jeunes filles, on en a vu d'autres qui sont sous la coupe. Je parle pas de façon négative, mais en tout cas sous l'influence de leurs parents depuis très jeunes, puisque ce sont des sports à maturité précoce. Finalement, elles ont du mal à sortir de leur adolescence. C'est tardif. Moi, je crois que ça va lui faire du bien. J'ai la sensation... j'ai écouté attentivement Sarah ce week-end sur ce sujet, qui avait pas l'air totalement convaincue et qui pensait justement que c'était très tardif. Mais je pense que tardif ou pas, de toute façon, les sportifs sont des grands enfants. À 30 ans, on a encore une âme d'enfant. On voit bien les couillonnades de Benoît Paire. Quelque part, c'est parce que tu restes frais dans ta tête et que tu restes un môme. Donc je pense que c'est quand même un véritable affranchissement.
Caroline Garcia qui joue cette semaine
à Rome. À Rome. Oui, c'est un tournoi mixte. Et elle jouera mardi contre je sais plus qui.
Contre une adversaire.
Ouais.
un point, Eric, sur cette finale du Masters 1000 de Madrid entre Alexander Zverev et Matteo Berrettini.
Ouais, on est dans le tiebreak de la première manche et Zverev n'est pas au mieux puisqu'il est mené 3-0 par Matteo Berrettini. Alors, Matteo Berrettini, il a un coup droit de buffle et il a une finesse côté revers. Moi, j'adore parce que de temps en temps, il te délivre une petite amortie. Donc, il a tout pour bien jouer sur terre et il se rapproche du gain du premier set puisqu'il mène 4-0. C'est sa première finale, hein, dans un Masters League.
Il a quel âge? C'est un jeune qui arrive ou?
Berrettini, je sais pas, il dirait 25 comme ça, vu le nez.
Bah, écoute, je vais vérifier en direct, on va voir si tu as le nez.
Mais c'est un mec qui a été stoppé à l'Open d'Australie parce qu'il a eu une grosse lésion aux abdominaux. Tu sais, Marie, si tu te souviens, il y avait plein de mecs qui avaient des gros bobos aux abdos.
Ouais,
mais
ouais.
Lui, c'est beaucoup plus grave que Djokovic. Ça s'est soigné beaucoup moins vite puisqu'il a été absent des terrains pendant deux mois, alors que Djokovic, deux jours après, il était rétabli.
25 ans, hein, pile poil, depuis 3 semaines, ce qu'on appelle le talent, messieurs, dames. Et Caroline Garcia affrontera une Italienne, Cocciaretto.
Oui, Elisabeth Cocciaretto.
Exactement.
Oui.
Voilà.
Heureusement quand même que Thibaut fait ton boulot, hein, Eric.
Voilà,
non mais, voilà. Marie, peu importe l'adversaire.
Ben, un peu de son salaire.
Je pense qu'il faut qu'elle soit concentrée sur son jeu.
Oui, ça va être intéressant de la regarder de toute façon.
Gabi Urpi, qui est un excellent technicien, puisqu'il avait entraîné Flavia Pennetta.
Autre Italienne. Merci beaucoup, Eric Salio, pour ce point tennis à 3 semaines maintenant de Roland Garros. Zverev Berrettini, c'est quand même bien parti pour Berrettini dans ce premier set. Le résultat sur RMC évidemment et sur rmcsport.fr. à suivre comme toutes les semaines le Mou des Vents GP et Maryse et colère ce week-end. Puis du cyclisme, c'est parti pour la saison des grands tours. Le Giro a débuté hier. Premiers enseignements avec notre invité, le manager général de l'équipe Cofidis, l'ancien coureur français évidemment, ancien maillot jaune sur le tour, Cédric Vasseur. À tout de suite.
RMC Sport Show.
Thibaut Jean-Grande.
19h46, on est en direct jusqu'à 20h avec Maryse et Vents GP. Ensuite, ce sera le RMC Football Show avec en point d'orgue le Rennes Paris Saint-Germain. La course au titre continue sur RMC autour de Nicolas Jamin. Ah oui, aujourd'hui c'est jour de vacances. Hein. Gilbert Bribeau en vacances, Oussem Loussaïef en vacances. Heureusement qu'on est là, d'où Maryse, hein, évidemment.
On tient la baraque.
Dans quelques instants, l'invité du RMC Sport Show, Cédric Vasseur, le manager général de la Cofidis. Les premiers enseignements du premier week-end de Giro. Ghana, toujours en maillot rose après la deuxième étape remportée au sprint par Tim Merlier. Mais comme toutes les semaines dans le RMC Sport Show, Maryse, tu nous partages ton humeur.
RMC,
le Mood Evans GP.
Et Maryse est en colère ce week-end.
Qu'est-ce qui se passe, Maryse? Je suis en colère. Je crois que c'est la saison des carottes nouvelles pour le foot au féminin. Et tu vas voir pourquoi. Tu te souviens certainement, forcément, parce que tu as une mémoire phénoménale, de mon coup de gueule du 21 mars dernier. Ça te dit quelque chose?
Précise un peu le thème peut-être.
Alors c'était au sujet des, des joueuses de D2 à l'arrêt quand les championnats masculins continuaient.
Oui, bien sûr.
Voilà.
Ouais.
Eh bien j'aurais dû brailler plus fort en fait à ce moment-là. Ça m'aurait évité d'être contrarié un week-end férié, je pense. Parce que la conséquence arrive, elle est maintenant, elle est là. Et elle arrive par la bouche de Jean-Michel Aulas qui nous apprend que le temps des vaches maigres est arrivé pour le foot féminin. Alors moi je dis que si l'un des plus grands fervents défenseurs du foot féminin, président du club cette fois champion d'Europe chez les féminines s'y met, ben je ne sais pas où on va. Alors je t'explique pourquoi, parce que jusque-là tu m'entends râler, mais tu ne sais pas pourquoi.
Qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il annonce?
Alors ben voilà ce qu'il a dit, notre Jean-Mimi préféré. Si la D1 va se terminer normalement, nous avons affaire à deux championnats professionnels avec un statut fédéral pour des équipes femmes. Jusque-là, il a raison. Ouais. Normalement, les deux qui doivent descendre et les deux qui doivent monter ne montent pas, enfin ça ne va pas se passer, tout simplement. Pourquoi? Eh bien parce que les championnats D2, nous l'avions dit en mars, ont été arrêtés contrairement aux championnats de leurs homologues masculins. Et donc, on voit s'approcher à grands pas l'éventualité d'une réduction de la D1 de 12 à 10 clubs la saison prochaine. La décision n'est pas encore prise, hein, mais ils y réfléchissent. Alors, c'est une perspective qui a déclenché des réactions très vives de la part des joueuses emblématiques de l'Olympique lyonnais, justement, notamment la Norvégienne Ada Egerberg qui mâche jamais ses mots et qui dit carrément « c'est une honte ». Autant faire un petit tournoi de week-end en mai prochain si on dérange la Fédération française de football. Ironise la Ballon d'Or. Mais ça ne m'étonne pas du tout, hein, parce qu'on sait qu'en général, quand elle a une position, elle s'y tient jusqu'au bout. Et d'un autre côté, Wendy Renard a écrit sur Twitter « ne laissez pas mourir notre championnat et notre sport ». Et elle s'inquiète toutes les deux que le football féminin français régresse depuis le mondial 2019. Bon, alors il faut dire quand même que Jean-Michel Aulas dit tout haut ce que bon nombre de pontes du football pensent pas trop bas finalement. Il vaut mieux un championnat compétitif à 10 clubs bien structuré qu'une purge à 14 clubs avec des écarts de niveau importants. C'est ce qu'on entend tout le temps dans le football féminin. Mais c'est la faute à qui? Quand on était justement quatre clampins à agiter le torchon rouge, dont moi, au sujet des championnats arrêtés, quel ministre, quel président de ligue, quel président de club s'est emparé du bébé avant que Claude Dubin l'entraîne dans le caniveau? Aucun. Et on voudrait nous faire croire aujourd'hui qu'une réduction du nombre de clubs dans le championnat féminin serait pour le bien de ces dames, pour les structurer, pour rendre les clubs plus professionnels. C'est bizarre, mais moi, je vois comme une coquille dans ce bain-là. Et je ne suis pas du tout contente parce que c'était évident que ça allait se passer comme ça. Et il fallait défendre le football féminin au moment où tout était arrêté alors qu'on continuait les championnats masculins. Voilà. Et donc, je suis vraiment colère en ce week-end du 8 mai. Et c'est fort dommage.
Et donc tout ça à cause de Jean-Michel Aulas en plus. Hein,
En tout cas, c'est lui le porte-parole. Ouais, et je trouve dingue parce que c'est quand même quelqu'un qui porte le foot féminin, ne serait-ce qu'au sein de son club depuis des années. Un club qui est majestueux dans le football féminin avec ses titres de champion d'Europe. Alors évidemment, j'en connais certains et je vais même pas les regarder d'ailleurs, les commentaires qui ont dit « Ah là là, ouais, mais le championnat d'Europe féminin, mais t'as vu le niveau, mais t'as vu les différences. » Mais on ne va pas en sortir avec des réflexions comme celle-là.
Je te les enverrai quand même dans un beau paquet cadeau.
Merci. Tu veux vraiment que je reste en colère, donc.
Non. Le mood Evan GP le week-end prochain, je suis sûr, sera un mood avec du sourire, avec de la joie, Marie. 19h50, le RMC Sport Show en direct jusqu'à 20h. Place au cyclisme, Marie. Après les classiques printanières, place aux courses à étapes. Le premier des trois grands tours s'était lancé hier. C'est parti pour le Giro. Filippo Ganna est toujours maillot rose ce soir après la deuxième étape remportée aujourd'hui au sprint par Tim Merlier.
L'invité du RMC Sport Show.
Le manager général de l'équipe Cofidis est en direct avec nous ce soir. Bonsoir Cédric Vasseur.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Alors vous, je précise tout de suite, vous êtes vraiment sur manager général, sur la route du Giro, hein, c'est ça? Vous êtes en direct de Novare, là où l'étape est arrivée ce soir?
Exactement. Ce soir, on dort pas très loin de Turin et je suis arrivé ici vendredi sur place. Ça fait vraiment plaisir de voir le Giro s'élancer. On connaît les difficultés du moment, on connaît les difficultés de tous les organisateurs de course, mais les organisateurs du Giro relèvent le défi et au plus grand plaisir de tous les amoureux du cyclisme.
Alors justement, Cédric, on va parler du sportif évidemment dans un instant, mais on va commencer par ce dont vous parlez. Maris, je ne sais pas si tu as peut-être pas encore vu des images du Giro, mais tu vas en voir et c'est vrai que c'est motivant, ça fait plaisir à voir et surtout c'est motivant pour le Tour de France qui arrivera cet été. Une course cycliste avec du public au bord des routes. Cédric Vasseur, c'est comment? Racontez-nous.
Oui, je pense que le public est vraiment bien éduqué. On voit beaucoup de. Vous savez, le cyclisme est aussi très populaire en Italie. On a ces tifosi, il y a cette ferveur sur le Giro qui considère comme la course la plus importante de l'année. Ici, c'est vraiment une ferveur avec hier en plus la victoire de Filippo Ganna, le chouchou du public italien. Aujourd'hui, malheureusement, les Italiens sont venus mourir au pied de la première place battu par un Belge. au final, c'est souvent un Belge qui gagne dans le cyclisme, c'est ce qu'on dit souvent. Ouais. Et on en a chez nous, hein, chez Cofidis, donc ça va. mais voilà, je pense que le public est bien discipliné. En ce qui nous concerne, évidemment, on a l'interdiction de sortir de la bulle, donc on est un peu parqué à part du public, mais ça permet vraiment d'avoir un spectacle à la télévision, de redonner du bonheur, de l'émotion aux gens. Et aujourd'hui, on en a tous vraiment besoin.
Et alors, comment ça se passe? Il y a des jauges ou pas? Ou vraiment, c'est les gens viennent masqués, j'imagine, et viennent comme ils peuvent au bord des routes?
Alors, sur le bord des routes, je ne peux pas vous dire, parce que nous, quand on arrive dans la zone de départ, on est vraiment isolés. Donc, aucune personne n'a le droit de rentrer dans la bulle course. On a subi... alors pour moi, pour cette semaine, j'ai fait un test lundi, un test PCR, un test jeudi, encore un test vendredi avec les organisateurs et on va être testé encore demain. Donc régulièrement, on est testé. Dès qu'une personne est suspicieuse, évidemment, elle est sortie de la bulle, de sorte que le public ne peut pas du tout accéder au paddock. Maintenant, sur le bord des routes, évidemment, on peut pas empêcher les gens d'aller voir la course passer devant leur maison. Et c'est un public quand même très discipliné qui est présent ici en Italie. Ouais.
Maryse Evan GP est là. Maryse, c'est vrai que tu vas voir les images, mais l'arrivée, par exemple, au sprint de cette deuxième étape remportée par Merlier aujourd'hui.
Oublié, hein.
Ah oui, ça fait vraiment plaisir. Tu sais, tu regardes presque sur le bord de la route plutôt qu'au milieu. Alors justement, cette deuxième étape, Cédric Vasseur, a été remportée au sprint par Tim Merlier. Votre coureur, Elia Viviani, termine troisième. Un peu frustrant, j'imagine, d'être si près d'une première victoire sur ce Tour d'Italie. Ou alors on se dit, on est prêt, c'est peut-être pour demain.
Non, je pense que le mot frustrant est juste. On est un peu frustrant, on est déçu parce que l'objectif aujourd'hui, c'était d'aller chercher cette victoire. Mais on est aussi rassuré parce que je crois qu'Elia aujourd'hui, au même titre que l'ensemble de l'équipe, a fourni vraiment un travail de très grande qualité. On a vu un Simone Cansoni formidable dans le final. Vous savez, un sprint, c'est un combat. Chaque sprint est un combat. Et parfois, une petite erreur de placement, de timing, eh bien, ça vous coûte la victoire. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est cette belle troisième place d'Elia Viviani et surtout le signal qu'il a envoyé. Aujourd'hui, on a vraiment compris qu'Elia Viviani est capable d'aller chercher une sixième victoire sur les routes du Giro, puisqu'il en a déjà gagné cinq. Et ça, ça donne vraiment le moral à l'ensemble de l'équipe.
Cédric Vasseur, le manager général de l'équipe Cofidis, en direct sur la route du Giro et sur RMC dans le RMC Sport Show. Vous avez vu hier les leaders de ce Tour d'Italie. Vous ne jouerez pas le classement général, mais ce prologue remporté par Filippo Ganna, c'est pas facile de juger sur un prologue, mais qui vous semble bien entre les Bernal, les Yates, Bardet éventuellement? Est-ce que vous avez un favori?
Difficile à dire sur un peu plus de 8 km, parce que le Giro, ça va se dérouler en montagne sur près un peu plus de 3400 km. Bon, je pense qu'on a vu un très bon Evenepoel, c'est l'enfant prodigue du cyclisme, hein, Remco Evenepoel, qui n'a pas couru depuis longtemps suite à une chute. Il va chercher, je crois, une belle 4e place, pardon. Donc on a vu un Evenepoel qui se positionne aussi comme un leader. Yates, évidemment, Bernal. On a toujours quelques surprises aussi sur les routes du Giro. C'est difficile de ressortir un vrai favori. Je crois que s'il fallait en donner un, on sait que l'équipe Ineos est l'équipe spécialiste des courses par étapes. Et je crois que Egan Bernal fait, à mon avis, figure de grand favori ici sur ce Giro. Mmh. Mais tout se passe, on va passer dans les Dolomites. Vous savez, en Italie, on a parfois des étapes qui sont perturbées par la neige. Il y a souvent des rebondissements, des retournements de situation. Donc on va vivre 3 semaines formidables.
Oui, et c'est vrai que ça fait plaisir de voir enfin ces grandes courses à étapes avec du public et un suspense qui est là tous les ans sur le Giro. Merci beaucoup Cédric Vasseur. Bonne chance pour la suite de ce Tour d'Italie pour votre équipe et peut-être dès demain pour Elia Viviani. Merci.
Merci, à bientôt.
Bonne soirée, au revoir. 19h56, tiens, un résultat de dernière minute. Les handballeuses Maryse de Nantes ont remporté le premier titre de Ligue européenne du handball français. Super, ça s'est terminé il y a quelques minutes. Ouais, une victoire en finale contre les Hongroises de Sofioc. Le hand féminin, champion d'Europe, les Nantaises. Ça vient juste de tomber. Merci beaucoup Maryse, c'est la fin du RMC Sport Show. Passe une bonne semaine.
Bonne soirée.
On te retrouve demain dans le Super Moscato Show, évidemment, à partir de 15h. Dans un instant, le RMC Football Show et la course au titre qui repart de plus belle. Salut Nicolas Jamin.
Salut Thibaut Jean-Grand. Effectivement, grande soirée de foot, hein, 20h minuit, avec un match pas décisif encore, mais capital dans la conquête du titre. Rennes, Paris, Saint-Germain, surtout après les victoires de Monaco, Lille et Lyon ce week-end.
Ça peut être décisif, non? Si Paris perd.
Non, c'est pas décisif.
Débat. On a 5 minutes ou pas?
Le terme décisif a un sens, il faut le respecter.
Ok, alors.
Si Paris perd, Lille n'est pas champion de France.
Ok, bien. Niveau.
Mais c'est capital. Important. Donc, on sera dans un instant au Roizen Park, évidemment, avec nos envoyés spéciaux pour les compositions très attendues ce soir, surtout 24 heures après la prolongation de Neymar. A tout de suite.
RMC Football Show, Liga Uber Eats.